Une production originale H2O Web Media.
Donc, Annie, si je comprends bien, là, t'étais comme dans un impasse parce que finalement, tu trouvais pas le plumitif. La dame des archives de Québec avec qui t'as communiqué non plus. Donc, qu'est-ce que t'as fait à partir de ce moment-là?
Bien, j'étais dans un impasse, en effet. Fait que là, ce qui s'est passé, dans le fond, comme on est supposé de trouver ces informations-là d'habitude, en attendant, bien, j'ai continué à communiquer avec Michel. On s'est parlé au téléphone à plus d'une reprise. Et c'est là qu'on a embarqué, dans le fond, un peu dans le subjectif, là, les souvenirs, les flashs, la famille, les oui-dire de l'époque aussi, à travers le temps. Qu'est-ce que lui, il restait comme détail ou comme indice qu'on pourrait avoir pour ne serait-ce qu'avoir des dates pour chercher dans les archives de journaux ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, c'est là qu'on a remarqué, dans le fond, qu'il y avait quand même une dynamique familiale spéciale, okay. Difficile, aussi à cerner autant que l'événement en tant que tel.
Parce qu'on se souvient que, dans le fond, dans le premier épisode, tu mentionnais que la grand-mère avait exigé de Michel qu'il brûle tous les documents quand il avait finalement eu connaissance de toute cette information-là. Puis oui. Que lui s'en souvenait plus vraiment. Donc, vous n'aviez pas accès à ça non plus.
Non, c'est ça. La fameuse pile de documents a été brûlée. Il y avait 22 ans. Quand il en a parlé justement à son frère après, parce que son frère, c'est sûr qu'ils n'ont pas grandi toujours ensemble, ils ont été séparés à plus d'une reprise plus jeune. Son frère, il a avoué que lui, il était au courant que leur père avait tué leur mère, parce que plus jeune, il y a un jeune qui aurait montré au frère de Michel le fameux Allopolis.
Le front page,
le front page, tu sais, un front page qui était pour l'époque, même encore aujourd'hui, mais pour l'époque encore plus humiliant, plus honteux, parce que c'était, il mettait la photo de Marcel et de Nora, avec le grand titre qui disait là, « Femme tuée à coups de couteau », tout ça, puis avec plus d'espace encore pour une photo du show sadomasochiste qui avait eu lieu là, durant le spectacle de Monsieur Madame Sexe ou quelque chose comme ça. C'était, tu sais, pour l'époque, c'était pas glorieux.
Okay.
Puis ça aidait à faire taire le monde un peu, à se taire un peu parce que c'était quelque chose qui était pas plaisant. Et c'est ce que le frère de Michel s'est fait montrer à l'adolescence. Et quand il est allé voir son père, Marcel, pour lui dire « Je sais que tu as tué maman », il a fait promettre de pas le dire à son petit frère, qui était encore un peu jeune, là, pas tout à fait dans l'adolescence, je pense, à ce moment-là, pour Michel.
Okay.
Donc, il avait pas dit, puis il avait gardé sa promesse, peut-être pour protéger son petit frère aussi, parce qu'ils n'ont pas très bien réagi, puis c'est normal aussi. Ça se peut qu'il ait voulu le protéger de cette information-là, vu que lui en souffrait peut-être là, déjà. Okay. Donc, ça a été ça.
En discutant avec Michel, tout ça, puis en spéculant et tout, qu'est-ce que tu as ressorti un peu comme information sur la famille à ce moment-là?
Bien, ce qui est le fun dans le cas de cet événement-là, c'est que Michel a beaucoup, beaucoup de souvenirs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos. Même si elle lui a demandé de brûler le procès en tant que tel, ou en tout cas le procès, la paperasse juridique, c'est curieux parce qu'elle a gardé vraiment beaucoup d'autres éléments, comme des lettres de détention, des articles de journaux qui datent de d'autres événements, parce qu'il y avait un passé criminel aussi, Marcel, pas un très gros passé, mais quand même, il y avait des choses aussi auparavant. Évidemment, aussi des bribes de choses que la famille a pu raconter à Michel avec le temps. C'est comme un petit chemin de cailloux tracé. T'sais, c'était des petites choses qu'on pouvait investiguer, mais qui ne nous donnaient pas nécessairement des gros déblocages. T'sais. Ça a été ça qu'on a discuté pas mal. La mère, la grand-mère, en fait, là, la mère de Marcel, était très nébuleuse aussi parce que c'était une femme qui protégeait beaucoup Marcel. Ça semblait être jamais de la faute à Marcel. Dans le fond, c'est là que Michel a commencé à me raconter que les rumeurs familiales étaient que c'est sorti où le frère Jean-Guy aurait pu avoir de quoi avoir dans tout ça.
Okay.
La grand-mère aurait dit que tout ça, c'est de la faute à Jean-Guy, qui est son fils aussi, après tout. Là, c'est drôle qu'elle en protégeait un. Mm-hmm. Fait que si tu dis, ben, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est une femme aussi qui était qui laissait des petites notes un peu partout, qui était très aussi croyante. Fait que c'était souvent relié à la religion, mais en même temps, c'était des petits indices parfois, tu sais, okay. Comme exemple, un moment donné, il avait fait une fraude, puis ça disait 2 000 $. Bon, elle avait barré. Elle corrigeait des articles de journaux, elle laissait des petites traces.
OK.
Puis ça nous aidait un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas évident, là.
Puis Jean-Guy, en quoi elle disait que c'était sa faute? On avait-tu plus d'informations à ce moment-là? Est-ce que les deux avaient une bonne relation. Parce que ce qu'on va découvrir un petit peu plus tard aussi, c'est qu'il fait partie de l'histoire aussi. Là, t'en as parlé au début. Donc, en quoi ça aurait pu être de sa faute? Qu'est-ce qui est ressorti par rapport à ça?
Ça, c'était la chose qu'on en savait le moins. Même que, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite commencé par essayer de voir... Bon, évidemment, lui, j'ai sorti son plumitif criminel là, à Jean-Guy.
Okay.
Lui, il était disponible. Pour des accusations, disons qu'on voit souvent quand on cherche des plumitifs de criminels, là, loi sur les stupéfiants, tout ça, trafic d'armes, mais c'était pas... pas de choses de voie de fait. Là, à ce que je vois, il n'y avait pas de voie de fait, tout ça. Michel s'expliquait bien mal comment son oncle Jean-Guy pouvait avoir un lien là-dedans. Parce que lui, c'est son souvenir de lui. Parce qu'il l'a connu par après aussi. Là, une fois la détention de Marcel terminée, il restait les deux à Charlebourg, Jean-Guy et Marcel. Donc, il a continué à le côtoyer. Il savait que c'était chien et chat, là, les deux, depuis l'enfance. Il paraît, là, ça s'est même déjà battu à plusieurs reprises, les deux frères. Ça s'entendait pas bien. C'était les deux des caractères, d'après ce que je peux comprendre, des caractères assez exubérants, un peu bouillants. Mais en même temps, de ce que Michel m'explique, c'est que Jean-Guy était plus avenant avec les enfants. Il était le fun avec les gars. Il s'entendait bien avec Nora. Donc, sa première suspicion, lui, quand on lui a dit ça plus jeune, c'était « Est-ce que Jean-Guy aurait pu avoir de quoi avec ma mère, tu sais, avec Nora? »
Ce qui a fait qu'on a pensé à Jean-Guy, c'est toujours que mon frère a dit, que mon père lui a dit que c'était de la faute à Jean-Guy, que ma grand-mère a dit que c'était de la faute à Jean-Guy. Puis tout ça a fait que, qu'est-ce qui fait Jean-Guy dans tout ça? C'est là qu'on a un petit peu allumé pour essayer de gratter, de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait pour vrai Jean-Guy. C'est quoi sa participation dans tout ça? Puis pourquoi tout le monde a l'air de dire que c'est un peu de sa faute, tout ce qui est arrivé, tu sais? Fait que, c'est pas clair encore, mais il doit bien avoir une partie qui y appartient, là. Je veux dire, est-ce que ma mère puis Jean-Guy, il avait l'air très proche, hein, ces deux-là. Il y avait une histoire entre elles puis ma mère, où est-ce que c'est quelque chose ce soir-là qui serait arrivé entre les trois puis que ça a mal viré, on sait pas. Là, bon, on sait pas, on se doute, mais on n'a pas de réponse claire encore.
Il y avait ça, comme tu sais, c'est sûr que là, on est dans des théories très subjectives, mais on fait avec ça, avec le temps, s'il nous reste ça à discuter, on en discute quand même, puis ça reste qu'on essaie d'éliminer des hypothèses.
Exactement. Donc là, Annie, j'aimerais ça un petit peu que tu me parles justement de c'est qui Nora, comment ils se sont rencontrés, c'est quoi un peu leur histoire comme couple. Je pense que ça va nous aider un peu à connaître le personnage aussi de Marcel et tout ça là, à travers leur histoire.
Oui. En fait, Marcel, lui, il est originaire, là, la famille est originaire de Beauce. Je pense que juste avant de partir travailler puis de s'en aller vers la Côte-Nord, c'était plus Charlebourg, Saint-Roch, ces coins-là à Québec. Marcel est allé travailler dans les années, fin 60, là, pour aller travailler à l'Iron Ore, l'usine à Shefferville. Dans le fond, il y en a une à Sept-Îles, mais lui, au départ, il est allé à Shefferville. Et c'est là qu'il aurait rencontré Nora, qui, elle, venait pas du tout du même coin. Elle venait plus loin encore, un petit village qui s'appelle Saint-Augustin, encore plus loin que Sept-Îles. Puis, dans le fond, elle est infirmière à l'hôpital de Shefferville. C'est ce qui est écrit dans leur acte de mariage et c'est ce que la famille dit aussi. Ils doivent s'être rencontrés à l'hôpital, je sais pas, ou tout simplement, c'était même un petit village, Shefferville, c'était minuscule. Ils se sont rencontrés là, se sont mariés en 1967 ou 1969. Beaucoup de photos de mariage. Puis ils sont déménagés quelques temps après à Sept-Îles, parce que dans le fond, je pense que lui, il est transféré à l'Iron Ore de Sept-Îles. Au moment de l'événement, il restait dans un petit quartier, là, sur Marcellet à Sept-Îles. Sans aller loin dans les détails, là, c'est sûr que là, on est encore dans les
spéculations,
les témoignages de gens, la famille. Nora Lavallée semblait quelqu'un de plutôt discrète, très croyante, très, très bonne maman. Juste les photos, on le voit, tu sais, des gâteaux maison à leur fête. C'est tout le temps la tablée, la fameuse tablée des années 70-80, quand c'était la fête des enfants.
Elle ne buvait pas, elle était consacrée à sa famille à 100%.
Plein de cadeaux en dessous du sapin. C'était une maman que c'est évident... Je sais qu'on peut pas se fier là-dessus, on le sait. On se fie pas à Facebook pour savoir si quelqu'un est un bon parent.
Non.
Mais avec ces photos-là, je suis capable de me faire une idée que moi, c'est ce que je ressens, là. Tu sais, c'est une bonne maman.
Vous pouvez vous informer à n'importe qui, c'est une petite femme, une petite ange, puis vaillante. Et...
Ce qu'on entend, c'est que Marcel, en fait, était très contrôlant, jaloux, très susceptible, très colérique. Bon vivant, par exemple, quelqu'un qui avait l'air d'être très grand sens de l'humour. C'est ce que Michel se rappelle aussi de son père, là. Un bon sens de l'humour, quelqu'un avec beaucoup de répartie. Pour ce qui est du spectacle, admettons, bon, c'est sûr que moi, au départ, tu te questionnes, est-ce que c'était quelque chose de courant? Est-ce que c'est quoi ce couple-là en même temps?
Exactement, parce que bon, on se souvient que finalement, le soir du meurtre, ils ont passé la soirée dans un bar où il y avait un spectacle de sexe sadomaso. Mm-hmm.
Pour le spectacle, les mains du sadomasochisme, par après, ils se formaient des groupes de femmes là, que, contre la violence. Et puis à chaque fois que je me présentais à une place pour faire mon spectacle, des fois, je me faisais arrêter avant même de faire le spectacle. Là. Fait que c'est là qu'on a décidé d'arrêter.
Donc, moi, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire en couple? Est-ce qu'il y avait comme un genre de vie, ben pas une deuxième vie cachée, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il l'obligeait à faire? Comment il était aussi... bon, tu me disais que c'était quand même un homme considéré un petit peu justement agressif, violent. Est-ce qu'il battait Nora? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus par rapport à ça?
C'est sûr que tout de suite, à l'enquête du coroner qui a été décrite dans l'Allopolis, parce que bon, Allopolis avait une entrée là, visiblement, parce qu'il y avait même des photos là, des personnes qui témoignaient. Marcel avait carrément dit que sa femme était faible, fragile. C'était pas facile de s'occuper d'une femme nerveuse et qu'elle se plaignait à la moindre gifle, finalement.
Ah, OK.
Et qu'elle allait à l'hôpital à la moindre claque.
OK.
C'était évident. Puis on est quand même en 77. C'est sûr qu'on est à une autre époque, mais c'est pas si commun que ça de dire, ben, tu sais, ma femme est fragile parce que quand je la frappe, elle va à l'hôpital, tu sais.
Mais je peux vous dire, par exemple, que le dernier voyage qu'elle a fait à Saint-Augustin, puis je vous assure qu'elle était pas belle à voir, la pauvre.
La dernière fois qu'elle est arrivée chez Mme Giscard, je pense, elle était méconnaissable du visage. Tu sais, fait que si elle était méconnaissable, c'est parce qu'elle avait vraiment été battue là, beaucoup. Là. Puis c'est pas la première fois, il avait de l'air, même à l'hôpital, ils ont dit qu'ils la connaissaient très bien. Parce qu'ils la voyaient, puis ils la voyaient pas parce qu'il avait mal au dos, ils la voyaient parce qu'elle se faisait battre puis qu'elle allait souvent à l'hôpital. T'sais. Mon père qui dit qu'à la moindre petite gifle, elle se ramassait à l'hôpital parce qu'elle était malade. Là.
Moi, j'avais l'impression en lisant ça qu'il se donnait un spectacle pour pouvoir plaider en quelque sorte une santé mentale ou quelque chose parce que c'était trop exubérant.
Exact.
Après, quand on a les papiers plus tard, on va le voir là, que c'est peut-être autre chose, mais en gros, ça se donnait en spectacle, il était vraiment très exubérant. Okay. Puis il y a des indices qui me laissent croire que Nora, c'était pas dans ses habitudes en tout cas. Autre chose, c'est que dans le fond, on sait par plusieurs témoignages différents que c'était la toute première fois que les enfants se faisaient garder.
Ah oui.
Donc, okay. C'était pas un couple qui sortait, en tout cas, du moins pas Nora. Là.
Okay.
Elle reste à la maison avec les enfants.
Donc, Annie, jusqu'à maintenant, là, ce qui nous préoccupe là, jusqu'à maintenant dans l'histoire avec Michel, tout ça, c'est vraiment, ben, premièrement, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une si courte détention?
Bon, moi, ce que j'ai jamais réussi à comprendre, mais que je commence à peut-être comprendre, il a été chanceux. Là. Il devait avoir un bon avocat, puis c'est de la façon, comment il a fait pour s'en sortir avec aussi peu de prison pour le crime qu'il avait commis? Ça, c'est ma grande question. C'est ça qui a toujours mis des doutes dans ma tête. Il m'a dit, ah, c'est-tu vraiment lui? Comment il a fait trois ans et quelques de prison pour faire un crime aussi horrible, tu sais. C'est ma grande question.
Et ensuite, que finalement, après une si courte détention, il a pu récupérer ses enfants. Parce qu'on se rappelle que c'est quand même un meurtre de la mère, 17 coups de couteau. Puis 3 ans et demi à peine après, il récupère ses enfants.
Pourtant, la DPJ a trouvé le moyen de nous retourner à notre père, qui avait tué notre mère, puis qui avait tué le fils ce soir-là, tout de suite après sa sortie de l'eau au bout de 3 années. Ça, c'est encore des fois un peu mitigeux qu'on commence à essayer de comprendre.
En 1981, on n'a pas la date, mais c'est en 1981 que les enfants ont été remis à Marcel qui sortait de détention. Il aurait fait sa détention à Cowansville. Retourne à Québec, puis les enfants sont retournés chez lui, à Charlebourg. C'est sûr que là, la première des choses, c'est d'essayer de voir en même temps, c'est la DPJ, c'était quoi son rôle?
Et en plus, la DPJ nous avait séparés, moi et mon frère. Là. Il n'est même pas dans la même famille. Là.
Bon, premièrement, la DPJ, c'était tout nouveau. Là.
C'est ça existait à ce moment-là, mais c'était
ça existait
vraiment
à la
nouveau.
Sortie là, de détention. Okay. Parce que c'est fin 70 que les services ont commencé. C'était autre chose avant qu'ils s'en occupaient, mais la protection de la jeunesse, ça a commencé en 79, je crois.
OK.
Ce que j'ai été voir dans les archives de journaux, c'est qu'il y a eu un problème sur la Côte-Nord. Il y a eu un temps où ça a été centralisé à Québec, les services de la protection de la jeunesse.
Okay.
Pendant un certain temps, je me suis demandé, est-ce que ça peut être à cause de ça? Est-ce qu'il y a eu un manque d'effectifs? Y a-t-il eu un manquement? Parce que là, quand on fait les choses à distance, je ne veux pas juger, mais en même temps, on se dit, est-ce que ça peut être ça? Finalement, les services étaient revenus. En 1981, la protection de la jeunesse était revenue sur la Côte-Nord. Donc, il était supposé avoir les effectifs et le service compétences requis pour pouvoir s'occuper de ces cas-là.
Est-ce que tu as été capable d'avoir de l'information justement sur le dossier de DPJ de Michel et son frère Lucien?
On a demandé quand même, tu sais, je m'étais fait dire que c'était quelque chose, là, surtout qu'on parle de 77 mm-hmm. à 81, mais en même temps, il y a eu aussi post-décès de Marcel qui est décédé en 1988, donc c'est sûr qu'il y a eu deux moments là, de leur vie où ils ont été en, sous la charge de la protection de la jeunesse, mais on a fait des demandes là, en bonne et due forme, mais c'est peine perdue parce que dans le fond, eux détruisent les dossiers lorsque les enfants atteignent la majorité.
Okay.
On a un dossier de Michel, par contre, avec le nom de l'avocat qui devait signer, là, tu sais, c'est des procédures, okay. tout ça, mais on a aussi réussi à retracer, là, on va le voir plus tard, là, des gens par rapport à son parcours en famille d'accueil,
okay.
mais sinon, là, on n'a pas de dossier.
Puis là, bon, fait que là, la DPJ, mais l'autre chose sur laquelle on s'interroge, c'est le fait que comment il a pu quitter le pénitencier 3 ans et demi après aussi.
J'ai encore un peu de misère à comprendre comment est-ce que mon père va trouver un avocat assez bon pour lui faire juste 3 ans et demi de prison. Ça, je pense encore de travers.
C'est sûr que quand on regarde pas souvent ces choses-là, on vient vite à penser qu'il y a eu corruption ou quoi que ce soit parce que ça n'a pas de bon sens, évidemment.
Surtout
quand
qu'on trouve rien. On n'a pas d'informations. Je sais pas si tu l'as mentionné tantôt, mais tu as essayé de vérifier aussi s'il avait été en cours d'appel parce que
oui,
s'il est sorti
ça.
Aussi vite, comme tu disais.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un revirement de situation. Je me suis même demandé dès le départ, est-ce que c'est vraiment lui qui a tué sa femme? Parce que des fois, ça pourrait être aussi une menace, ça peut être très mm-hmm. prenant. Hein? Une mm-hmm. menace de l'extérieur peut être plus épeurante que la menace d'aller en dedans, mm-hmm. finalement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu une menace puis il est obligé de se dire l'auteur de okay. des faits? Ça, je me l'ai demandé, mais j'ai pas trouvé de choses qui pouvaient vraiment okay. corroborer avec ça. C'est sûr que là, Michel m'a raconté que son frère, il avait déjà dit, ben moi, il m'a toujours dit qu'il avait réussi à sortir vite parce que dans le fond, il a déjà été détective privé, puis il savait des affaires sur des personnes importantes, puis grâce à ça, il pouvait avoir ce qu'il voulait, les guns, qu'il voulait les fusils, les armes, puis il réussit, tu sais. C'était un peu du théâtre, là, de la façon okay. qu'il disait. Lui, il a jamais vraiment cru à ça, tu sais. C'est sûr que quand on regarde aussi un cas comme ça, ça peut arriver qu'ils peuvent sortir vite. Il arrive toutes sortes de choses, tu sais, quand c'est un domaine que moi, je maîtrise pas à 100% parce que j'ai pas étudié là-dedans. Mm-hmm. Donc, ça peut être un peu imposteur que je cherche là-dedans, mais en même temps, qui d'autre va le faire?
Oui, exactement.
Si personne le fait, on va le faire du mieux qu'on peut. Mm. Et je le précise que je suis pas quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice, mm-hmm. mais je fais mon expérience avec ça, puis j'essaye de voir toutes les possibilités. T'sais.
OK. Fait que là, à partir de ce moment-là, ton parcours, dans le fond, l'enquête que tu as menée, tu partais avec le questionnement suivant, c'est que là, il est sorti plus tôt. On n'a pas l'information, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi il est sorti? Qu'est-ce que tu as spéculé à ce moment-là? C'était quoi tes hypothèses?
Bien, c'est sûr que je me suis demandé s'il n'y avait pas eu... tu sais, c'est arrivé dans ces années-là, justement, avec un autre accusé à cette île, un autre détenu. Il y avait eu des changements à un moment donné aussi de nom de verdict, par exemple, de meurtre au premier ou deuxième degré versus homicide involontaire, etc. Okay. Là, avec ce changement-là, il y a eu des personnes qui ont réussi à aller en appel pour faire changer leur verdict mm-hmm. avec toutes sortes de raisons. Des choses que, bon, je ne maîtrise pas nécessairement, mais que je sais que ça pouvait faire rendre les sentences. C'est arrivé, là, des sentences qui sont devenues vraiment courtes
okay.
avec des changements. Ou tout simplement aussi de faire... tu sais, des fois, ils vont demander de revoir leur bilan psychiatrique. Mm-hmm. Ou tu sais, je me suis dit, ça peut-tu être un revirement? Mais c'est sûr que je me suis... C'est sûr que j'ai pas une expérience de beaucoup d'années, mais dans ces années-là, j'ai vu beaucoup de choses. Le fait de rien trouver, ça me sonnait plus comme quelque chose qui me semblait, en voulant rester pragmatique, là, oui. ça me semblait quand même corrompu un peu. Là. Il y a quelque chose qui va pas.
Okay. Donc, soit qu'il était sorti parce que il y avait eu un passe-droit, ils ont effacé, il y a eu un pardon.
C'est ça, le pardon, ben, je l'ai étudié un peu. C'est sûr, sur les archives, il n'y a pas juste les articles de journaux, mais on a aussi des traces de tout ce qui s'est fait, des bilans, dans le fond, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada,
okay.
qui peut me donner des un petit peu, de disons, des indices sur, par exemple, comme justement en 79, il y aurait resserré les lois pour les pardons. Là, okay. Déjà là, un pardon pour quelqu'un qui a tué, c'était moins évident. En plus, ben, ça prenait un bon 7-8 ans hors détention, blanc comme neige. Là, mm-hmm. On s'entend là, que là, ça allait bien, qui participe à la communauté, tout ça, c'était absolument pas le cas de Marcel Lambert, mm-hmm. qui faisait pas grand-chose, là, c'est ça, il en est même décédé, là, à 43 33 ans d'un arrêt du cœur, buvait beaucoup d'alcool, tout ça. Donc, c'est sûr que là, on n'est pas supposé... En tout cas, s'il y a eu pardon, il y a eu corruption, parce qu'il n'était pas supposé d'être éligible du tout à un pardon en 1981.
OK.
Encore moins quand tu viens juste de sortir de détention.
Mais
donc,
oui.
Là, ce qui se passe, c'est qu'on veut rester les deux pieds sur terre, on ne veut pas être conspirationniste, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment, vraiment eu une série comme un domino d'éléments manquants d'entrée de données qui n'ont pas été faites, où on a affaire à un pardon qui serait pas juste, en quelque sorte, ou encore même une clémence, qui sait?
Membre de la famille H2O Web Media.